prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, Naaman.
De notre Bible, nous allons lire deux textes. Le premier, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, et certainement un texte que beaucoup de gens connaissent, parce qu'il fait référence à notre foi en Dieu. C'est dans Romains chapitre 8, verset 28, et ensuite nous nous reporterons dans un autre passage de l'Ancien Testament cette fois. Alors voilà ce que j'ai sous les yeux et ce que nous lisons, nous partageons ensemble ce soir. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Peut-être un autre mot, appelés selon les plans que Dieu a formés sur chacun d'entre nous. Et vous avez remarqué avec moi, nous allons illustrer naturellement ce principe qui est placé devant nous par l'apôtre Paul, mais il nous est bien rappelé que toute chose concourt à notre bien. Venant de Dieu, c'est le bien que nous avons à attendre. C'est seulement le bien, eh bien, que nous pouvons espérer recevoir, parce qu'il n'y aura pas finalement autre chose de la part de Dieu. Et ce bien se trouve très souvent sous une autre expression dans la Bible, le mot « bénédiction », dire une parole qui fait du bien. Et à ce titre, nous allons revenir en avant de notre Bible et nous allons lire un passage qui se trouve dans le livre des Rois, deuxième livre des Rois, s'il vous plaît, au chapitre 5. Et l'histoire, je vais la raconter, on va prendre les textes au fur et à mesure. Il nous est rappelé dans ce passage qu'il y avait un homme du nom de Naaman. C'était un homme qui avait une haute position dans son pays. Il était chef de l'armée du roi de Syrie. Et voilà que, compte tenu naturellement de cette élévation en dignité, cet homme nous rappelle le texte, il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. C'était un grand du royaume et nous pouvons certainement deviner dès lors qu'il avait cette autorité, probablement un grade de général, général en chef de l'armée de la Syrie, et en raison de cela, un homme qui était hautement considéré parmi son peuple et probablement, comme tous ses chefs militaires, parce qu'il avait certainement fait des états de service éblouissants, il avait probablement remporté des victoires, ou il avait maintenu tout simplement la défense de son pays ou la paix dans son pays. Alors, il nous est simplement dit qu'il avait l'agrément de son maître, le roi de Syrie, et puis également, la considération de ses compatriotes. Et il nous est dit que c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens dans un certain temps, une période de l'histoire de la Syrie. Et bien Dieu, même si c'était un pays étranger, avec un roi étranger, avec un chef d'armée étranger, Dieu avait donné la victoire. Alors il ne nous est pas donné le détail, mais toujours est-il que ça avait certainement été probablement triomphant, éclatant, et il se reconnaissait comme un grand homme. On le reconnaissait comme un grand homme de la nation syrienne. Mais vous savez ce que nous dit la suite, et probablement l'expérience de bien des gens. Quelle que soit leur position, quel que soit leur rang, l'élévation qu'il a leur, il nous est simplement dit « Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. » il avait tout. Il avait la richesse, il avait les honneurs, il avait certainement tout ce qu'un homme peut désirer, quand on est au sommet d'un état, mais il y avait par-delà sa vaillance et sa force, son courage, eh bien il y avait un problème chez lui. Et ça devait être probablement son problème numéro un. Parce qu'on peut tout avoir dans la vie, mais si nous n'avons pas la santé, et c'était son cas, et de quelle maladie il s'agissait, c'est-à-dire probablement le mal le plus répugnant, le plus invalidant, celui qui vous met au banc de la société, celui qui vous fait détourner les regards des autres sur votre personne, en raison de ce que peut avoir dit d'eux une telle maladie, les déformations et tout ce qui va avec. Et puis, probablement, les gens, au bout d'un certain temps, devaient fuir cet homme, après s'être tellement rapproché de lui, parce que c'était un personnage d'envergure. Mais là, on devait le fuir parce que tout général qu'il était, tout ami du roi qu'il était, tout fort qu'il était, tout ce que l'on peut multiplier pour lui, sa vaillance, mais il avait ce problème, un véritable désastre dans sa vie. Il était tout simplement lépreux. Or, nous dit la suite, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Voilà, nous rentrons maintenant dans l'histoire. Le général, avant d'être malade probablement, avait fait une incursion dans le pays de Dieu, c'est-à-dire le pays d'Israël. Et puis, il avait vaincu. Il avait vaincu les Israélites. Et comme en pareille circonstance, c'est quelque chose d'abominable, mais c'est un temps très éloigné, mais on sait très bien que les choses ne sont pas aussi éloignées de notre monde, ce genre de phénomène dont je voudrais tout simplement dire en deux mots. Après avoir été vainqueurs d'Israël, ils avaient emmené captive, ils avaient fait prisonnière, ils avaient emmené en otage, on en parle beaucoup d'otage aujourd'hui, ils avaient emmené en otage une petite fille, et peut-être que le général l'avait trouvée certainement très mignonne, très charmante, alors il l'avait mis au service de sa femme. On pourrait dire qu'il avait peut-être atténué sa douleur et sa peine, parce que cette petite fille, prisonnière certes, otage, servante, était dans une maison, on pourrait dire, de prince, mais elle était quand même au service d'un homme qui lui était étranger, elle était au service dans une terre étrangère, elle était au service d'un homme qui était le chef de l'armée, qui avait probablement emmené bien d'autres hommes, des femmes, des enfants, là en exil. Et puis je crois que cet homme, Naaman, avait vraisemblablement fait couler le sang des compatriotes de cette petite fille. Peut-être même les parents de cette petite fille avaient été massacrés. C'est possible. Alors, elle se retrouvait dans cette situation, donc captive, et elle se retrouve donc là aussi, au service de la femme de Naaman. Et puis, un beau jour, le texte nous le précise, elle est venue dire à sa maîtresse, donc à la femme du général Naaman, elle est venue lui dire tout simplement « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, c'est une ville d'Israël, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alors, nous découvrons quelque chose d'assez étonnant, c'est que cette petite fille avait entendu dire dans la maison où elle était retenue que le maître de la maison était lépreux. Et ça a dû être certainement une catastrophe pour tout le monde, à commencer par la famille, c'est-à-dire par la femme de Naaman, et puis tous les l'entourage. On devait parler de comment se pouvait-il qu'un homme fort et vaillant comme lui tombe malade et devenir lépreux. Alors cette petite fille, qui était un petit peu dans l'ombre de cette maison, elle entendait les choses. Elle avait entendu dire que son maître était malade. Oh, je ne sais pas, elle aurait pu vraisemblablement se réjouir. Elle aurait pu dire, ça c'est un châtiment de Dieu. Cet homme est venu dans mon pays, il a fait du mal à mon peuple. Il a certainement enlevé je ne sais combien de vies. Il a fait un mal considérable. Alors, elle aurait pu se réjouir, se frotter les mains en disant, mais voilà, moi je sais que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui châtie, c'est un Dieu qui punit. Et il a puni mon maître du mal qu'il a fait à mon peuple et du mal qu'il me fait aussi à moi, parce que moi je ne suis plus une enfant libre, je ne suis plus une jeune fille qui ait la liberté, je suis privée de mon pays, je suis privée de mes parents, je suis privée de tout. Elle ne se réjouit pas. Vous savez, elle était capable par la foi de transformer le mal en bien. Elle aurait pu se venger, elle aurait pu avoir des sentiments d'aigreur, d'amertume. Elle aurait pu peut-être même prier en disant tu juges cet homme. Non, elle ne le fait pas. Elle va passer au-delà de cette horrible condition dans laquelle elle se trouve, prisonnière. Mais cela nous rappelle le premier texte que nous avons lu tout à l'heure. Vous vous souvenez de ce que nous avons lu dans Romains ? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. On y reviendra à ce texte tout au long de notre méditation. Elle ne va pas se réjouir, elle va aller porter le témoignage et elle va dire en substance auprès justement de la maîtresse qu'elle sert, elle dira « Mais si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, dans mon peuple, parmi mon peuple, il y a un grand homme de Dieu, ce n'était que... » enfin, c'était Élisée, que nous connaissons bien dans la Bible. Et à ce moment-là, elle va véritablement être touchée de compassion pour la souffrance d'autrui. Elle-même souffre. Mais elle ne fait rien de ses mauvais sentiments. Et elle dira tout simplement, mais si véritablement mon maître était auprès de ce prophète, de cet homme de Dieu, je suis sûr, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle est convaincue, hein, et elle veut faire partager le bien de la connaissance qu'elle a d'un Dieu qui est un Dieu de bienveillance, un Dieu qui bénit, un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve. Elle veut même en faire profiter ceux qui lui ont fait du mal. Alors elle le dit. Alors, Naaman a entendu ce que sa femme lui a rapporté. Elle a dû lui dire, mais tu sais, la petite fille que tu nous as ramenée de ta dernière campagne d'Israël, eh bien cette petite fille m'a dit quelque chose d'étonnant, quelque chose d'inouï. Parce que elle connaît quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est un prophète de Dieu. C'est un homme qui habite dans la capitale d'Israël, qui n'était pas Jérusalem à ce moment-là, mais Samarie. Et si véritablement, tu allais là-bas jusqu'en Israël, eh bien la petite fille a dit qu'elle te guérirait, qu'il te guérirait le prophète. Alors, on comprend que Naaman était probablement surpris, parce que avant qu'il accepte d'entendre une telle parole qui vient, se porte à son secours, il a dû en voir des médecins, il a dû en voir des guérisseurs de son temps, il a dû essayer toutes sortes de traitements, toutes sortes de choses. Mais il savait bien qu'il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas de solution à la lèpre. Celui qui était lépreux mourait lépreux. Tout simplement, il n'y avait rien d'autre à faire. Alors, au bout d'un certain temps, probablement qu'il n'a peut-être pas sauté sur la nouvelle immédiatement, parce que, premièrement, Naaman, c'était Monsieur Naaman, il était général, et il n'allait pas se plier facilement à écouter un petit peu ce que l'on dit de droite et de gauche. Pourtant, ça le concernait. Pourtant, c'était pour son bien, pour sa délivrance. Alors, donc, Naaman, au bout d'un certain temps, a voulu faire une démarche auprès du roi de Syrie. Il lui a simplement dit, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. C'est-à-dire qu'il a dit au roi, bien moi j'ai emmené une petite fille, et puis maintenant que je suis malade, elle m'a dit que je pourrais être guéri si je retournais en Israël, auprès de tel et tel prophète, tel homme. Alors le roi de Syrie, en entendant cela de la part de son général, il va lui dire tout simplement, sans rentrer dans les formalités, il dira « Mais va, rends-toi à Samarie et je t'enverrai une lettre au roi d'Israël pour t'introduire. Parce qu'il faut quand même remarquer que Naaman avait été le vainqueur des Israélites et que le voyant revenir tout à nouveau, ça devait peut-être être inspiré l'effroi de voir ce général revenir. Mais il ne revenait pas pour faire la guerre, il venait pour être guéri là cette fois-ci. Donc c'est pourquoi le roi de Syrie dit « Je vais t'envoyer une ambassade, je vais t'envoyer là, il y a une délégation qui va te précéder et tu vas d'abord aller voir le roi d'Israël. Et puis après tu verras ce que tu dois faire. » Alors il est parti comme cela. Vous remarquerez que Naaman est parti de bonne foi. Il est parti en faisant confiance sur les dires d'une petite fille, tout simplement. Une petite fille qui a un grand cœur, qui ne se venge pas, qui n'a pas d'aigreur ni d'amertume. Alors il est parti, il a pris avec lui, passez-moi l'expression, mais il a emmené avec lui une véritable fortune. Écoutez bien, 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Imaginez-vous, surtout que de Damas jusqu'à Samarie, c'est quand même pas le bout du monde, hein. C'est quelques 200 kilomètres peut-être, hein. Je n'ai pas regardé précisément, mais c'est pas très très loin. Enfin bon, à l'époque, on prenait pas ni l'avion ni le train, hein. Enfin tout ça représentait quand même un petit voyage. Alors il a pris tout ça, ça représentait une véritable fortune. Et on peut s'imaginer que quand Naaman s'est déplacé, il ne s'est pas déplacé tout seul sur sa monture, il avait probablement une escorte, il avait probablement tout autour de lui, à la fois des soldats et puis des ambassadeurs. On ne rentrait pas comme ça, donc on ne se déplaçait pas. C'était un véritable cortège qui traversait là, ces routes de Palestine. Alors, il a porté au roi la lettre que le roi de Syrie, le roi d'Israël, donc, le roi de Syrie lui avait écrit, et sur cette lettre, il était dit cette parole: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Erreur. Grossière erreur, parce que la lettre, elle n'était pas... Le roi de Syrie n'aurait pas dû l'écrire au roi d'Israël, il aurait dû l'écrire au prophète. « Afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Qu'est-ce que vous voulez? Que le roi d'Israël guérisse la lèpre d'un étranger, et surtout de quelqu'un qui avait vaincu son pays. Vous avez remarqué, hein, c'est bien écrit en noir, non, sur blanc. Alors, il va y avoir une réaction qui est compréhensible. Il nous est dit que, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements d'indignation et il s'est mis en colère. Il dit, mais suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour que le roi, je paraphrase, pour que le roi de Syrie s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Le roi d'Israël n'a rien compris de rien du tout. Et il y voit, finalement, dans la venue de Naaman, quelqu'un qui est en train de chercher l'intrigue, quelqu'un qui cherche une occasion de déclarer tout à nouveau la guerre. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, le roi d'Israël, guérir un lépreux, j'y mettrai pas les mains, il a dû certainement penser à ça. Ouais. Je voudrais quand même vous dire que le roi d'Israël n'était pas certainement un des plus grands et des plus brillants qui existait à ce moment-là. C'était un roi qui avait complètement, qui était déchu en quelque sorte, sur le plan moral, sur le plan religieux, sur le plan même politique. Alors vous savez, il avait complètement perdu la carte. Et il voit, lui, dans cette démarche, qui est une démarche de bienveillance en quelque sorte, il y voit une occasion, finalement, d'une déclaration de guerre. Mais ça ne peut pas aller plus loin. Lorsqu'Élisée, et nous en arrivons justement au destinataire, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, donc, de fureur, parce qu'il était en colère, il envoya dire au roi d'Israël, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse Naaman venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Là voilà que les choses se mettent en place dans l'histoire qui maintenant va dévoiler la puissance de Dieu, la foi de cette petite fille qui va aboutir, et puis également la délivrance de cet homme qui, faut le rappeler, n'était qu'un étranger. Un homme qui ne connaissait pas forcément très bien la culture de la foi des Juifs. Mais néanmoins, il avait ce qu'il fallait au départ, au fond de son cœur. Alors, Élisée, du fin fond de sa petite maison, là, eh bien, entendu dire que le roi en Israël s'était mis en colère. Et il a dit, bien, maintenant, cet homme qui vient, c'est un homme qui est un malade. Il est lépreux. Laisse-le venir maintenant vers moi. Tu vas le conduire vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alors, on ne sait pas quelle est la correspondance, comment le prophète Élisée a pu savoir qui était Naaman et toute l'histoire que nous avons déjà commencé à raconter. Mais moi, je crois qu'Élisée, c'était vraiment un prophète en Israël. C'est un homme de Dieu, un homme qui avait l'esprit de Dieu. Et je crois qu'au fond de son cœur, un homme de prière. Et je crois qu'au fond de son cœur, ce que la petite fille avait dit, c'était une vérité, qu'il y avait un prophète qui était capable de guérir la lèpre. Et que lui, eh bien, a dû certainement, à un moment ou à un autre, ressentir ou pressentir qu'il y aurait bientôt quelqu'un qui viendrait de loin pour lui demander sa guérison. Et c'est pour cela qu'il dira, eh bien, il saura que, finalement, il y a encore de la foi en Israël. Il y a encore, eh bien là, cette possibilité de se tourner vers Dieu, et Dieu est encore capable de faire des miracles. Alors Naaman est venu avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. On a lui le conduire, on a lui montrer un petit peu comment les choses devaient eh bien, être, où se trouvait Élisée. Et à ce moment-là, Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Alors là, nous allons rentrer dans le dévoilement du caractère même d'un homme qui croit que Dieu est capable de faire quelque chose pour lui, c'est sûr, mais qui ne veut pas s'abaisser, qui se considère encore comme un grand personnage alors que peut-être qu'il est prêt à mourir, et qu'il est en train de faire toutes sortes de façons et de manières pour dire, voilà, moi, on ne me traite pas comme un manant. On ne me traite pas comme le dernier des hommes. Moi, je suis le général Naaman. Je viens avec les recommandations de mon roi, qui est le roi de Syrie. Alors, il s'attendait peut-être que le prophète Élisée sortirait de sa maison, lui ferait certainement toutes sortes de révérences. Mais Élisée, ce n'est pas comme ça qu'il s'est présenté. Élisée est resté dans sa maison, et il a seulement envoyé son messager dire, tout simplement, « Maintenant que tu as fait le voyage, maintenant que tu es devant ma porte, maintenant que tu es là, eh bien, tu vas aller tout simplement te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras purifié de ta lèpre. » Alors imaginez-vous, Naaman, il ne s'attendait pas à ça. On va voir qu'il ne s'attendait pas à ça. Et là, la colère va venir. Vous savez, je voudrais vous dire tout de suite pour que vous compreniez, il y a une parole dans l'épître de Jacques qui nous dit ceci, que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Or, nous avons une admirable association entre la foi et l'humilité dans le texte que nous sommes en train de commenter ce soir. Ouais. La foi et l'humilité. Un cœur simple, c'est un cœur qui reçoit les trésors de Dieu. Mais il n'en va pas de même pour Naaman dans un premier temps. Il va y arriver, Naaman, mais il va falloir qu'il s'abaisse. Alors, cette parole, « Va et lave-toi dans le Jourdain », pour monsieur le général, c'était se moquer de lui, vous vous rendez compte, aller faire, une petite trempette, dans ce misérable petit fleuve qui traverse, la Palestine, le Jourdain, qu'est-ce que cela signifie? On voit la suite. Naaman fut irrité, et quand un général est irrité, il vaut mieux quand même pas rester à côté. Je ne sais pas, ils ne sont peut-être pas tous comme ça, les généraux. Mais c'est un homme de pouvoir, un homme de capacité. Donc, il a été irrité. Et lui qui avait fait un si long voyage, il nous est dit qu'il était tellement en colère qu'il s'en est allé, tout simplement. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Mais qu'est-ce que l'on m'a joué comme tour? Et là, il a dû penser à la petite fille. Il a dû dire, mais elle m'a joué véritablement une drôle de comédie. Elle m'a dit que si j'allais en Israël, que si je venais à Samarie, que si je me présentais devant le prophète me guérirait. Or, voilà, le prophète ne sort même pas de chez lui, il m'envoie un vulgaire serviteur pour me dire « va te tremper dans les eaux du Jourdain ». Il n'était pas content, hein. Mais alors vraiment pas content. Et il allait partir, il allait repartir d'où il venait. Parce qu'il se disait ceci, et ça c'est quelque part, ça peut nous intéresser les uns et les autres dans les stratégies que nous nous mettons en tête, hein, ou la manière de penser une chose que Dieu ne pense pas. La façon dont Dieu pourrait procéder avec nous, mais dont il ne va pas procéder. Toutes les illusions que nous pouvons nous faire, lorsque nous avons besoin de Dieu, lorsque nous sommes malades, lorsque nous pouvons donner des conseils, tout simplement, au Seigneur. Et il se disait, voici donc, il sortira vers moi, le prophète sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Il s'était fait tout un cinéma, excusez-moi pour l'expression, hein. Et en tant que les films n'étaient pas encore à l'ordre du jour. Hein. Mais dans sa tête, il s'était monté tout un scénario. Et il s'était dit, voilà, il fera ceci, il fera cela, etc., etc. Et puis moi, je repartirai finalement guéri. Mais ça, c'était lui. Vous savez que dans le livre du prophète Ésaïe, je crois, c'est dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, il nous est dit que Dieu dit plutôt, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » Et parfois, dans la conduite que nous avons, que Dieu nous donne pour atteindre la délivrance, une guérison, même le salut, enfin, tout ce dont nous pouvons prétendre et que nous désirons recevoir de Dieu, parfois nous nous mettons toute une histoire en tête et nous disons « Voilà, ça va se passer comme ça, ceci, cela, etc. » Alors que souvent Dieu nous déconcerte. Nous compliquons souvent les choses. Nous essayons d'échafauder toute une histoire et finalement, Dieu va faire tout le contraire. Et souvent, nous sommes déconcertés. Et nous disons, moi, je ne suis pas content. Alors, je retourne. Je m'en vais parce que Dieu n'a pas fait comme je voulais. Mais si, Dieu va faire selon nos besoins, comme nous voulons, mais il ne va pas procéder comme nous l'entendons. Et imaginez-vous un petit peu toute organisation qu'il s'était mis en tête, hein. Dans ce sens que il sortira vers moi, ce qui montre bien encore tout l'orgueil de Naaman. Moi, je suis un grand personnage, c'est pas moi qui vais aller vers lui, c'est lui qui va venir vers moi. L'orgueil, là, c'est sûr que il se présentera lui-même. Je suis le prophète Élisée qui vient pour te guérir. Rien du tout, il n'est même pas sorti. Ensuite, il invoquera le nom de l'Éternel avec certainement, eh bien, à la manière probablement des prêtres païens de la Syrie, enfin, on peut l'imaginer, avec toute une liturgie un peu délirante, on peut peut-être dire les choses comme ça, et il mettra la main sur ma chair qui est malade, et je serai guéri, voilà. Donc ça c'était dans la tête de Naaman. Et il va se mettre d'autant plus en colère, parce qu'il se souvient qu'on lui a dit « tu vas aller tremper dans le Jourdain ». Et là il est furieux, Naaman. Il se dit « les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ?» Alors là, on voit qu'en plus, il est chauvin. C'est un nationaliste. Il se dit, mais les eaux de Syrie sont quand même plus propres, hein, peut-être. Elles sont quand même plus saines, ce sont nos eaux à nous, hein, les Syriens. Mais alors, allez me tremper dans ce... Peut-être qu'il pensait ça avec mépris, dans ce caniveau, hein, dans ce ruisseau de rien du tout. Et... Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Il aurait voulu à ce moment-là que le prophète lui dise « Non, bon, on va changer un peu de stratégie, tu ne vas pas aller te laver dans les eaux du Jourdain, tu vas retourner dans ton pays et dans ces eaux du Parpar et puis de l'Abana, alors à ce moment-là tu te tremperas et tu verras que tu seras guéri. » Non, ce n'est pas comme ça. Toujours un petit peu la stratégie qui s'était donnée. Et il nous est simplement marqué le fait... Hein, il nous est dit que Naaman s'en retournait et partait avec fureur. Tout à l'heure, il nous est dit qu'il était irrité, mais là, il est furieux. Crescendo, hein. Mais vous savez que la colère, l'irritation, l'impatience, l'énervement, vous savez que c'est tout à fait le contraire de la foi. Et il y a des gens qui se mettent en colère après Dieu. Ils se disent, mais c'est quand même pas normal. Voilà, on m'a dit qu'il était créateur de ceci et cela, que bon... Alors il ne doit pas m'aimer. Et puis il y a des gens qui se mettent en colère. Parce que ça ne se passe pas comme il y avait pensé. Mais heureusement que ça ne se passe pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu ne serait pas Dieu. Il veut nous montrer qu'il est au-dessus des hommes. Et que les hommes, avec leur stratégie, leur sagesse, leur intelligence, leur rationalisme et toute leur analyse, eh bien, ça ne tient pas tout cela. Ça ne tient pas. Et il s'en allait, finalement, furieux. Mais le pauvre homme, qui avait fait déjà ce voyage, en espérant qu'il obtiendrait quelque chose, il va faire ce voyage et il va repartir aussi malade que quand il est venu. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage de lire la parole de Dieu sans la comprendre. C'est bien dommage d'entendre le message de l'Évangile sans en saisir la substance de foi qui est capable à elle seule de nous amener à toucher finalement le prodige de Dieu, le miracle de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Et les gens qui peuvent se promener toute leur vie avec leur Bible sous le bras, finalement, mis à part la couverture, ils n'en connaissent pas autre chose. Et qui se fâchent, qui s'irritent, qui repartent, qui viennent, qui entendent, et finalement, qui refusent de s'humilier, qui refusent de dire, eh bien Seigneur, tu es Dieu, moi je suis qu'un homme, et qui plus est, je suis un homme, je m'appelle Naaman et je suis malade, et je vais mourir si tu n'interviens pas. Et pourtant, il le savait qu'il allait mourir. Eh bien, il repartait, il préférait encore repartir, eh bien là, en moribond, que de repartir vivant et guéri. Tout ça parce qu'il n'était pas d'accord, tout simplement. Vous savez, ce texte nous enseigne, parmi bien d'autres textes de la Bible, qu'il nous faut être humbles et modestes. Je crois que ça, c'est la grande leçon. Alors, il repartait avec fureur. Mais heureusement qu'il avait avec lui des gens qui étaient un petit peu plus... comprenaient les choses un peu mieux. Il nous est dit, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire avec beaucoup de révérence. Ils vont lui dire, mais mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Et oui, ce que le prophète lui demandait, ce n'était pas difficile. C'était tellement facile que finalement c'était difficile pour lui. Dans notre société où tout est compliqué, quand vous présentez des choses qui sont simples, les gens ils sont complètement perdus. Ouais, c'est incroyable, ils sont complètement alors déroutés, désorientés, parce que c'est trop simple, on est habitué à la complexité. C'est pas vrai? Ouais, vous êtes convaincus. Hein. Alors, ce sont ses serviteurs qui lui disent, mais voilà, mais tu n'as qu'à faire tout simplement ce qu'il te demande. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Et là, ce sont ses serviteurs qui vont lui dire, des Syriens, des étrangers, vous vous rendez compte, qui vont se faire les porte-paroles de Dieu. Ils vont lui dire, lave-toi et tu seras pur. Vous vous rendez compte que pour entendre une chose, il y a eu déjà le témoignage de la petite fille. Si mon maître va à Samarie vers le prophète, il sera guéri. Ensuite, le roi de Syrie lui dit, bah, tu peux aller en Israël, je te donne autorisation. Ensuite, il se prend là de colère parce que bon, les choses ne vont pas plus vite ou mieux comme il le pensait. Et là, ce sont ses serviteurs, ses compagnons de voyage qui vont lui dire, mais écoute, tu fais ce qu'on te demande et c'est tout. Oui, mais pour un général, pour n'importe qui, on n'a pas besoin d'être général pour être orgueilleux. Et je crois qu'il y a peut-être des généraux qui sont peut-être plus humbles que des simples individus. Mais est-ce que c'est ça l'orgueil, hein? C'est ça l'orgueil, c'est terrible. L'orgueil, c'est un entêtement, on est buté quand on est orgueilleux. Et on se dit, je ne céderai pas, je ne capitulerai pas, c'est moi qui ai raison et c'est les autres qui ont tort. C'est ça l'orgueil. Oui, oui. Alors, ils lui ont dit, tu vas et tu fais. Alors, notre brave général, alors ça paraît un peu comique parce qu'il faut quand même le faire, descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la parole de ses serviteurs qui n'ont fait que reprendre. La parole de l'homme de Dieu. Alors, il s'est plongé 7 fois. Alors imaginez un petit peu comment ça s'est fait. Il devait y avoir sur les bords du Jourdain toute sa compagnie qui était là. Et je vous dis, hein, il n'est pas venu tout seul. Hein. Il devait y avoir peut-être des dizaines et dizaines de soldats avec lui. Monsieur le général qui commence à se déshabiller. À moins qu'il soit allé directement comme ça. Enfin, remarquez, vous avez, il avait 10 vêtements de rechange. Il pouvait toujours, mais vous verrez que les vêtements de rechange, ce n'était pas pour lui, c'était pour les donner. Vous verrez ça d'ici quelques instants. Donc, monsieur le général commence à voir si l'eau est assez bonne pour prendre son bain. Alors, il descend une fois. Il lui avait dit 7 fois, hein, vous avez bien remarqué. Au bout de la première fois, il dit, je suis toujours lépreux. Bon, il fait 2 fois, toujours lépreux. 2, 3 fois, toujours lépreux. Bon, ça commence déjà à devenir un petit peu ennuyeux, parce que peut-être que ces soldats qui étaient en train de le regarder à chaque fois, ils pouffaient de rire. C'est quand même pas habituel quand on voit quand même un général dans sa salle de bain, quand même. Hein, prendre, voilà. Donc, à chaque fois, ils devaient certainement... Ce qui les faisait rire, c'était pas de voir leur maître malade, c'était de voir l'entêtement de leur maître. De voir son obstination à ne pas vouloir obéir. Parce qu'il avait fait obéir certainement des centaines et des centaines de milliers de personnes, lui. Mais lui ne voulait pas obéir. C'est ça le problème. Il ne voulait obéir qu'à son roi. Alors, 5 fois, pareil, 6 fois, toujours la même chose. Là, il devait peut-être commencer à être sérieusement énervé. Et là, les autres lui disaient, vas-y, 1/7 fois. Alors, il y va 1/7 fois, et quand il ressort, écoutez bien, sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Voilà. Alors, on appelle ça comment? On appelle ça tout simplement de la foi, mais qui est passée par l'école de l'humilité. Tout simplement. Une foi qui a été dépouillée de l'orgueil. Qui a été dépouillé de toutes les prétentions humaines, de toutes les contestations, de toutes les révoltes, de toutes les rébellions qu'il peut y avoir dans notre cœur. On est prêt à faire beaucoup de choses, à aller décrocher la lune. Bon, façon de parler. Mais toujours est-il que quelquefois, dans les choses les plus simples que Dieu nous demande, de croire dans cette simplicité de cœur et d'obéir. Et à partir du moment où il a obéi complètement à ce que l'homme de Dieu, le prophète Élisée, lui a dit, à ce moment-là, cet homme a été guéri. Et il a dû penser à la petite fille, sa petite servante dans la maison. Il a dû dire, oui, elle avait raison. Depuis le départ, elle avait raison. Elle m'a dit que si je faisais ceci et cela, je serais guéri de ma lèpre. Et là, il était justement guéri de sa lèpre. Je termine, simplement et brièvement. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, c'est-à-dire vers le prophète. Avec toute sa suite, lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » La première chose que Naaman va reconnaître, qu'il a des dieux en Syrie, des faux dieux, des idoles, mais il n'y en a qu'un qui soit vraiment le Dieu vivant et vrai, c'est le Dieu d'Israël. Parce qu'il vient d'en faire l'expérience. Et vous savez, je crois que hier, parce que c'est une très vieille histoire, hein, hier comme aujourd'hui, quand un homme ou une femme, par la foi, s'il veut bien s'humilier devant Dieu, et s'il veut bien obéir aux paroles que Dieu lui donne, eh bien il reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est celui qui nous guérit, celui qui nous sauve, celui qui nous délie, celui qui nous donne la vraie vie. Et il dira, mais il n'y en a pas d'autre. Et les uns et les autres qui sommes là, qui écoutons la parole de Dieu, nous sommes convaincus que le Dieu que nous avons au fond de notre cœur, ce n'est pas un Dieu d'emprunt, ce n'est pas un Dieu que nous avons hérité de nos pères ou d'une manière ou d'une autre, c'est un Dieu qui est venu un jour dans notre vie et nous étions malades d'une lèpre ou d'une autre, et il est venu nous toucher, et c'est comme cela que notre vie a été complètement changée, et qu'après des années, des décennies même pour certains d'entre nous, eh bien, il est resté fidèle à ses promesses et que nous avons voulu nous attacher et lui être fidèles parce qu'il n'y en a pas d'autre Dieu que lui, tout simplement. Alors, et maintenant, dira-t-il au prophète, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Et Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Que le prophète Élisée était déjà dans l'évangile avant l'évangile. Tout ce que vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Et les 10 vêtements de rechange, les 10 talents d'argent ou je ne sais combien, et puis tout le reste, c'était pour offrir à celui qui le guérirait. Et celui qui l'a guéri, c'était Dieu, c'était pas le prophète. Et le prophète a dit, ben, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Dieu qu'il faut remercier. Alors Naaman le pressait d'accepter, mais il refusa. Et puis alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que je donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, etc. Que ton serviteur... voilà, et puis toute une petite histoire que vous pourrez retrouver, que je vous laisse lire pour tout simplement compléter votre connaissance de ce texte. Maintenant, je finis et je conclue. Je reviens à notre première lecture que nous avons faite tout à l'heure, parce que ça nous intéresse au premier chef ce soir, pour les uns et les autres, quel que soit notre besoin. La lèpre, elle peut se manifester d'une manière ou d'une autre. La lèpre, elle ronge, elle détruit, elle déforme, elle dénature. La lèpre, c'est l'image du péché, si vous voulez. Mais il y a bien d'autres choses qui sont des lèpres dans le cœur des hommes, de l'homme moderne, de l'homme d'aujourd'hui. Quelque chose qui, finalement, eh bien, même s'il est au sommet de sa gloire, même s'il est vaillant et fort, même s'il a les honneurs et tout cela, peut le faire descendre, finalement, eh bien, dans le séjour des morts, peut l'amener à n'être plus rien en un instant. Tel est le pouvoir de la maladie, finalement. Vous savez, il y a des grandes personnalités qui, quelque part, apprennent à un moment ou à un autre, eh bien, qu'ils sont atteints de... Et puis là, c'est fini, la carrière et tout le reste. C'est terminé, tout est ruiné. Et la lèpre, dans ses différents aspects, eh bien, est une ruine. Écoutez, l'apôtre Paul nous dit ceci, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Permettez-moi d'ajouter, « Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, qui font confiance à Dieu, qui s'humilient devant Dieu, qui reçoivent sa grâce, tout simplement au fond de leur cœur, sans discuter, sans complexité. » C'est ça ce que le Seigneur veut nous apprendre. Alors, quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons être, quelles que soient les craintes de perdre ceci ou de perdre cela, parce que c'est ce qui s'est passé pour Naaman, et c'est ce qui s'est passé aussi pour la petite fille, elle avait tout perdu. Alors, je peux dire que, quand il est revenu dans la maison, cette petite fille qui était une esclave, soit il l'a renvoyée dans son pays, en lui disant maintenant, heureusement que tu as parlé de ton Dieu, parce que son Dieu, ton Dieu à toi, il m'a guéri. Peut-être qu'il l'a renvoyé vers ses parents, s'ils étaient encore existants. Et s'ils n'étaient plus de ce monde, ses parents, ou s'ils n'avaient plus de famille, ils ont dû en faire leur fille. Ils ont dû dire maintenant, tu nous as donné le plus grand trésor. Nous t'avions pris comme une otage, comme une prisonnière. Nous t'avions rendu malheureuse, mais toi, tu nous as répondu. Tu as répondu au mal que nous t'avons fait par le bien. Et aujourd'hui, moi, Naaman, je suis guéri. Et c'est grâce à toi, parce que tu m'as parlé de Dieu. Tu m'as parlé de ton Dieu. J'ai mis ma confiance dans ton Dieu. Et aujourd'hui, voilà, je suis un homme qui avait tout perdu. Et je suis un homme je suis un homme guéri aujourd'hui. Et un homme sauvé, parce que c'était la fin, finalement, de notre petite histoire que vous lirez chez vous, si vous voulez. Alors, quelle que soit notre situation, on va mémoriser ces dernières paroles. Nous savons que toute chose, les bonnes et les mauvaises, les plus enthousiasmantes comme les plus déprimantes, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses plans. Cette petite fille, eh bien, malgré ce que l'on pourrait dire, avait été dans les plans de Dieu d'être déportée. Parce qu'elle a été, en quelque sorte, une messagère de bonnes nouvelles. Elle était missionnaire. Et puis, pour Naaman, ça a été véritablement pour lui, cette lèpre, ça a concouru à son salut, à son bien, parce que Dieu a fait d'une pierre deux coups. En le guérissant de sa lèpre physique, il l'a guéri de sa lèpre morale, qui était tout simplement l'orgueil. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons prier maintenant quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté. Oui, Seigneur, nous pouvons dire et redire, et le penser, Seigneur, et le redire tous les jours, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors c'est vrai que nous sommes parfois confrontés avec des choses qui nous déconcertent, des choses qui nous déplaisent fortement, des choses qui ne vont pas dans notre sens, qui nous désorientent, qui peuvent parfois nous mettre en colère et nous amener, Seigneur, et bien Père éternel, à ne plus rien comprendre, à rien du tout. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous bénisses ce soir, qui avons entendu ta parole. Oh, nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes une autre compréhension des choses. Parce que souvent, nous réagissons sur l'instant. Nous réagissons avec la souffrance qui est la nôtre. Mais Seigneur, tu nous interpelles pour que nous regardions à toi. Et regarder à toi, c'est regarder à demain. C'est regarder à plus tard. C'est regarder à ce que toi, tu es capable de faire, ce qui nous est impossible à nous. Alors nous voulons te remercier. Oui, Seigneur, que chacun nous puissions dire, eh bien maintenant, quand il m'arrive ceci et cela, bien toute chose concourt à mon bien, parce que je sais, Seigneur, que mon Dieu m'aime, que moi j'aime Dieu, et qu'il a préparé des plans, qui sont des plans, Seigneur, merveilleux, que je ne peux pas aujourd'hui, Seigneur, réaliser, comprendre, mais des plans, Seigneur, qui vont se réaliser, parce que c'est souvent à travers une première expérience que nous faisons de la découverte de Dieu dans notre vie, découverte miraculeuse, qu'à ce moment-là, eh bien, c'est une existence nouvelle qui se met en route. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur, mes amis. Bénis, Seigneur, les auditeurs, Seigneur, dans de ta parole et fais-leur le plus grand bien. Et puis moi, je vais te demander, Seigneur, simplement, que tu leur donnes une plus grande foi. Et cette foi, Seigneur, qu'elle soit véritablement, eh bien, qu'elle se nourrisse de l'humilité, de la modestie. Parce que nous savons, Seigneur, que c'est comme cela que tu honores vraiment, Père éternel, la prière de ceux qui souffrent. Et tu les délivres, tu les guéris et tu les sauves. Merci, Jésus. Amen. Amen.